Radio Kapi.
Oh, Kapi. Les informations, Jean-Désiré Kanyama.
Au sommaire de ce journal, pas de pèlerinage 2026 pour les chrétiens catholiques de l'Ituri, prévu dans quelques semaines au sanctuaire diocésain d'Erira. Décision prise par le diocèse de Mahagi-Nioka dans le territoire de Mahagi. Raison évoquée, respect des mesures pour préserver des vies humaines face à l'épidémie à virus Ebola. Le ministère de l'Enseignement supérieur, universitaire et recherche scientifique s'oppose et condamne les nominations opérées par l'AFC 123 dans les provinces du Nord et du Sud Kivu. L'occupation temporaire d'une partie du territoire national ne confère pas à ces groupes ni souveraineté, ni compétences administratives, ni pouvoir de nomination, rappelle le ministère de l'ESU. Nous allons parler football avec la Coupe du Monde 2026 qui appartient déjà au passé. Ici, en République démocratique du Congo, l'équipe dirigeante de la Fédération congolaise de football a d'ores et déjà voté le calendrier de la nouvelle saison de football. En même temps, elle a décidé sur la répartition de 7 millions de dollars que la RDC a ramené de cette Coupe du Monde. Des extraits de l'émission Dialogue entre Congolais d'hier lundi vous seront proposés à la fin de cette édition. Mesdames, Messieurs, bonjour. D'abord, cette mauvaise nouvelle concernant les chrétiens catholiques de l'Ituri. Ils n'iront pas au pèlerinage 2026 prévu dans quelques semaines au sanctuaire diocésain d'Erira. Décision prise depuis hier lundi par les diocèses de Mahagi-Nioka dans le territoire de Mahagi. Raison évoquée, l'épidémie à virus Ebola. Dans un communiqué, l'évêque de ce diocèse, Mgr Sosten Aïkouli, appelle les curés et vicaires ainsi que les pèlerins à respecter cette mesure pour préserver des vies humaines face à cette épidémie qui a déjà causé plus de 1900 morts dans cette province. Le point avec Marcel Kizabiamungu.
Les zones de santé de Kambala et Mahagi dans les territoires de Mahagi sont parmi les 28 zones déjà touchées par l'épidémie d'Ebola sur les 36 que compte la province de l'Ituri. Dans son communiqué publié ce dimanche, Mgr Sosten Aïkouli, évêque du diocèse de Mahagi-Nioka, déclare, je cite, les nouvelles selon lesquelles la maladie à virus Ebola MV continue de se propager avec des cas confirmés et même des décès nous angoissent tous. Et nous ne disposons pas d'informations fiables de la part de ceux qui nous le devaient. Fin de citation. S'adressant à la coordination diocésaine du pèlerinage, il annonce l'annulation de cette grande messe qui rassemble habituellement des milliers de fidèles venus de différentes localités du diocèse et même de l'extérieur de celui-ci. Selon le dernier bulletin d'information de l'Institut national de santé publique du 7 août 2026, 4209 cas d'Ebola sont déjà confirmés au pays, dont 1916 décès. Bounia, Martial Kiza Biamungu, Radio Okapi.
Épidémie à virus Ebola encore. Le personnel de première ligne engagé dans la lutte à Kisangani, nous sommes toujours dans la Tchopo, réclament les paiements de leur salaire. Dans une déclaration rendue publique le week-end dernier, ces agents affirment être livrés à eux-mêmes alors qu'ils déploient des efforts considérables pour contenir la maladie. Ils s'interrogent sur l'absence de prise en compte de leur situation salariale par le gouvernement congolais, malgré les financements mobilisés pour lutter contre cette épidémie. Suivez un extrait de leur déclaration proposée ici par Roneline Tibonera Idi Amin.
À notre gouvernement, nous avons le regret de constater que depuis la déclaration de l'apparition de l'épidémie d'Ebola à Kisangani, nos autorités ont abandonné les prestataires de première ligne à leur triste sort. Nous disons, pas de soutien, même une simple visite. Le seul soutien du partenaire n'est que le remboursement de notre transport. Les personnels de première ligne ne bénéficient pas des fonds débloqués pour la riposte. Nous sommes indignés.
Des grincements de dents également signalés du côté des membres de la société civile de Malembankoulou dans les Olomami cette fois. Là aussi, ils plaident pour le paiement des arriérés des 3 mois de salaire des enseignants de cette entité. Dans une déclaration, les porte-parole de cette structure citoyenne demandent aux autorités de s'impliquer dans ce dossier afin de trouver une solution. Ils rappellent que le non-paiement de salaire des enseignants risquerait d'impacter sur la rentrée scolaire qui s'annonce. Claude Kasangolo, porte-parole de la société civile de Malembankoulou, s'exprime au téléphone de Paul Mounanga.
Choqués par l'impayement des enseignants du territoire de Malembankoulou, lesquels totalisent déjà 3 mois de retard, à savoir mai, juin et juillet. La société civile Force Vive demande aux autorités tant provinciales que nationales de s'impliquer dans la recherche d'une solution satisfaisante le plus vite que possible, car nous tendons vers la rentrée scolaire qui oblige aux enseignants d'aller à l'école et dispenser cours. Mais avec cet impayement, les enseignants ne sauront pas faire une tâche à la hauteur de leur mission. Car, dit-on, ventre creux n'a point d'oreille. Ces enseignants sont responsables. Ils sont soumis à payer le loyer et à s'acquitter à d'autres obligations. Quant à la communauté qui ne supportera pas de voir leurs enfants être exposés au vagabondage, en commun accord avec la société civile, ils sont déterminés d'accompagner les enseignants positivement jusqu'à l'obtention de leur salaire. Car ce salaire est pour eux un droit et non une faveur. Et ce salaire qui leur permet d'accéder aux soins médicaux et à payer les vies vivre et les non-vivre utiles dans la vie.
Nomination au sein des établissements publics d'enseignement supérieur et universitaire des villes de Goma et Bukavu. Le gouvernement congolais s'oppose farouchement. Le ministère de l'enseignement supérieur, universitaire, de la recherche scientifique et des innovations condamne donc ces nominations opérées par la FCM 23 dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu. Dans un communiqué rendu public hier lundi, le ministère rappelle que l'occupation temporaire d'une partie des territoires nationaux ne confère à ces groupes ni souveraineté, ni compétences administratives, ni pouvoir de nomination. Ronelyne Tibonera et Diamine pour les détails.
Selon ce communiqué, les nominations rendues publiques vendredi 7 août 2026 constituent, je cite, « une ingérence grave et inacceptable dans le fonctionnement d'un service public relevant exclusivement de l'autorité de l'État ». Les établissements concernés comprennent notamment l'ISC Goma, l'ISTEM Goma, l'ISDR Bukavu, l'ISTEM Bukavu, l'ISP Goma, l'Université officielle de Bukavu ainsi que plusieurs autres instituts supérieurs. Le ministère de l'enseignement supérieur, universitaire, de la recherche scientifique et des innovations précise que le comité de gestion régulièrement investi demeure en fonction et conserve l'intégralité de leurs prérogatives. Toute personne qui se prévaudrait de ces nominations illégales ou contribuerait à leur mise en œuvre s'expose à des sanctions sévères prévues par la loi, peut-on lire dans les documents. Le communiqué souligne également l'engagement du gouvernement à protéger les droits des étudiants, des enseignants, des chercheurs et des personnels académiques confrontés aux contraintes sécuritaires.
De l'enseignement, passons à la politique. Une soixantaine d'ONG, dont l'UCHA RDC, désapprouvent toute démarche en rapport avec la promulgation de la loi sur les référendums. Dans un entretien accordé hier lundi à Radio Okapi, ici à Kinshasa, Crispin Tshia, militant de cette organisation pro-démocratie, appelle le chef de l'État à s'abstenir de promulguer la loi sur les référendums et à privilégier des solutions aux problèmes d'insécurité, à la lutte contre la maladie à virus Ebola et aux autres fléaux qui gangrènent la société congolaise. Crispin Tshia est au téléphone de Blaise Nongala Mayanda.
Nous pensons que le chef de l'État se retrouve devant une responsabilité historique en sa qualité de garant de la Constitution, de l'unité nationale et de la cohésion sociale. Cependant, nous le rappelons que les priorités que nous avons aujourd'hui dans le pays, c'est la persistance de la guerre à l'est de la République, la nécessité d'assurer la protection des civils, l'essor des millions de déplacés internes et la propagation de l'épidémie, le virus d'Ebola, la détérioration des conditions de vie des Congolais et la forte pression sur nos finances publiques. De ce qui précède, nous demandons au chef de l'État de refuser la promulgation de la loi fixant les conditions d'organisation du référendum, d'abandonner définitivement tout projet de changement de la Constitution du 18 février 2006, afin de mettre fin aux manœuvres perçues par l'opinion comme tentative de maintien au pouvoir au-delà de l'échéance constitutionnelle de 2028.
Notez que pour l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, l'UDPS, parti au pouvoir, doter le pays d'un cadre référendaire clair permet de combler un vide juridique et de redéfinir les règles d'expression de la souveraineté nationale. Le processus du deuxième recensement général de la population et de l'habitat entre dans sa phase de déploiement à Kinshasa. Le ministère provincial de l'Intérieur a lancé hier lundi une formation sur la digitalisation du registre de la population. Cette session concerne les agents recenseurs et les chefs de quartier des communes de Kasavubu, Bandalungwa et Kalamu. Le projet vise à dématérialiser entièrement les processus de recensement à l'échelle nationale. Explication avec Blaise Nongala Mayanda.
Ces agents recenseurs et chefs des quartiers sont formés à l'utilisation des tablettes électroniques et des logiciels de collecte pour enregistrer les données en temps réel, ce qui réduit les erreurs et les omissions. À travers cette session, un accent particulier est mis sur l'éthique, les secrets statistiques et les techniques d'approche des ménages afin d'assurer un accueil favorable de la part de la population quinoise. Steve Sekele, expert chargé de la digitalisation du processus de recensement, a invité la population quinoise à adhérer à cette initiative qui permettra aux décideurs de maîtriser les effectifs du pays en vue des projets de développement.
Nous demandons à notre population d'adhérer massivement à ce recensement administratif pour en fait aider l'autorité à mieux identifier sa population. Le recensement, c'est un acquis pour la gouvernance dans la mesure où elle constitue en elle-même un outil d'aide à la décision. Sur les projets de l'État, sur les projets de la population, le dirigeant a besoin d'être bien informé pour pouvoir prendre des bonnes décisions.
Ces formations bénéficient de l'appui du gouvernement provincial de Kinshasa ainsi que des partenaires techniques et financiers dont l'Union des villes et des communes basée en Belgique. Cette opération est particulièrement historique pour la RDC qui a connu son dernier recensement scientifique en 1984.
Et triste nouvelle dans le territoire de Faradje. Toujours pas d'informations sur l'équipage du camion qui s'est renversé samedi dernier dans la rivière Nzoro. Nous sommes dans le Haut-Ouélé. Selon les coordonnateurs de l'ONG Action pour la promotion rurale, Jean-Claude Malitano, le véhicule qui provenait du territoire de Dungu se dirigeait vers Ao en Ituri et traversait la rivière sur la barque installée dans la localité de Nzopi. Cet accident remet en lumière les difficultés de circulation sur la route nationale numéro 26. D'après la même source, plusieurs ponts se sont effondrés sur cet axe, compliquant considérablement le trafic entre Durba et Faradje et entraînant d'importantes conséquences économiques pour les populations de la région. On écoute Jean-Claude Malitano dans cet extrait recueilli par Alain Irung.
La question que nous nous posons, à qui reviendra la responsabilité du renversement de ces camions sur cette barque? Pourquoi la maintenance de cette barque pose toujours problème alors que les usagers payent normalement leur traversée? Quel sort sera-t-il réservé à cet opérateur économique qui s'est acquitté de tous ses devoirs fiscaux jusque sur la barque et qui se voit aujourd'hui dépourvu de son équipage, son camion avec toutes ses marchandises? La société civile du territoire de Faradje recommande au gouvernement tant provincial que national de diligenter dans un bref délai une enquête indépendante afin d'établir les responsabilités, de rétablir l'opérateur économique victime dans ses droits les plus légitimes et d'accélérer, terminer les travaux de réhabilitation sur les ponts Nzoro, Aro, Dogia, tous effondrés sur la RN26.
Je vous signale qu'un drame presque similaire s'est produit toujours samedi dernier au niveau du pont Kalwebo sur la route nationale numéro 1. Un camion transportant des voyageurs et des marchandises a lui aussi chuté dans la rivière, causant la mort d'au moins une personne, tandis qu'une dizaine d'autres sont toujours portés disparus. L'accident qui s'est produit à la limite entre les provinces du Kasaï et du Kasaï central a également fait plusieurs blessés. Et puis dans la province du Maniema, les routes secondaires de la ville de Kindu sont impraticables. Elles se retrouvent dans un état de dégradation avancée. Conséquence, les déplacements demeurent difficiles en saison de pluie comme en saison sèche. Face à cette situation, les usagers interpellent les autorités compétentes afin qu'elles procèdent à l'aménagement de ces voies. C'est la grâce aux fonds issus de la taxe conventionnelle, disent-ils. Florence Kizalunga, reportage.
Circuler aujourd'hui sur les routes secondaires de Kindu est devenu un véritable casse-tête pour de nombreux habitants. La situation est encore plus pénible pour les utilisateurs des taxis-motos. Du point de départ jusqu'aux grandes artères asphaltées, les secousses se succèdent au grand désarroi des usagers.
Vraiment, à part les routes principales, il n'y a pas de bonnes routes secondaires. Par exemple, la route qui mène vers Gounde FM. Vous quittez des paillotes vers l'université, Chomba vers l'université, vers modernité. Il n'y a pas de bonnes routes vraiment. Si tout derrière l'aéroport, vraiment, et surtout quand il y a la pluie.
Approché à ce sujet, le ministre provincial des infrastructures et travaux publics appelle la population au calme. James Kimbayo annonce l'arrivée prochaine d'engins destinés aux travaux de voirie dans la ville de Kindu.
Comme vous le savez, la route Kisangani-Ubundu était impraticable. Le gouverneur Moussa Kabakou a financé cette route, ça devient praticable. Et les engins commenceront à entrer pour qu'on commence les travaux dans la ville de Kindu. tout. Comme vous le savez, à Kindu, il n'y a pas des engins. Aucune entreprise, même les entreprises publiques que vous connaissez, n'ont pas d'engins.
Selon les usagers, le mauvais état des routes secondaires a également des répercussions négatives sur les coûts du transport. Les tarifs des courses étant revus à la hausse en raison des difficultés de circulation. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Actualité internationale.
Au Sénégal, le président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, a ouvert hier lundi la première session extraordinaire de l'année. Ces 15 prochains jours, les députés vont se pencher sur 5 textes de loi en tout. Deux de ces textes, portés par la majorité PASTEF, seront examinés en procédure d'urgence. Très politique, il prolonge de nouveau dans l'hémicycle le face-à-face entre le camp d'Ousmane Sonko et celui de Bassirou Diomaye Faye.
L'invité.
Et parlons football comme promis avec la Coupe du Monde 2026 qui appartient déjà au passé. Ici en RDC, l'équipe dirigeante de la Fédération Congolaise de Football a d'ores et déjà voté le calendrier de la nouvelle saison du football. En même temps, elle a décidé sur la répartition de 7 millions de dollars que la RDC a ramené de cette Coupe du Monde pour sa performance réalisée d'avoir atteint les 16e de finale de cette compétition. L'émission Dialogue entre Congolais d'hier a d'abord abordé ces sujets. Ces intervenants sont au micro de Dona Madimba.
Oui. Flavien Sangou, président de la Ligue de football de la province du Congo central. Nous sommes en train de clôturer cette émission. Votre analyse sur le calendrier de la FECOFA par rapport aux activités footballistiques prévues pour l'année en cours. La FECOFA parle de préparatifs au mois d'août. De septembre à octobre, il y a les lancements des activités des clubs, mais aussi des léopards. Là-dedans, il y a aussi les compétitions interclubs du continent. Le mois de novembre est consacré à la fenêtre FIFA et décembre et plus, ce sont les compétitions suite et fin et bilan. Qu'est-ce que vous pensez de ce calendrier?
Oui, le calendrier, c'est un très bon calendrier qui nous donne déjà la ligne de conduite, comment nous allons nous comporter par rapport à toutes ces dates-là, de pouvoir bien commencer les championnats et pouvoir terminer. Donc, ils nous ont déjà donné une voie de pouvoir bien faire les choses conformément à toutes ces dates-là, toutes ces échéances. Ils nous parlent des mois de novembre, septembre, août, pour bien commencer les championnats. Donc, c'est comme je vous ai dit, c'est une ligne qu'on nous a donnée de pouvoir bien faire les choses. On nous a frayé. On nous a, tracé la ligne de bien suivre les choses pour éviter toujours des dérogations en dérogations. Donc là, nous serons capables, à mesure de pouvoir contrôler les ligues, contrôler les ententes, pour nous les ligues, contrôler les ententes par rapport à cette ligne de conduite qui nous a été donnée par la fédération. Merci. Donc là, c'est une très bonne chose déjà, pour que si nous les respectons à la lettre, ces calendriers, si nous les respectons à la lettre, on n'aura pas de problème. Merci. Par rapport à la fin de la saison sportive en RDC.
Merci Flavien Sangou. Max Moké, président du club de football MK, est en Cheïté. Par rapport à ce calendrier, est-ce que vos équipes, votre équipe particulièrement, sont prêtes pour se lancer dans ce calendrier? Et comme il faut toujours rester prudent, quels sont les mécanismes que vous allez mettre en place pour continuer d'avoir l'œil aiguisé sur les fonds qui nous ont été présentés et la ventilation qui en a été faite pour que les bénéficiaires puissent effectivement les avoir et les utiliser convenablement?
Je commencerai par le calendrier. Je dis encore, c'est pour la toute première fois dans l'histoire du football congolais qu'on puisse avoir un calendrier où la Fédération Congolaise de Football Association vient de mettre en place, pour ne plus tomber à tout ce que nous avions eu par le passé. Je vais donner un exemple bête, où des clubs qui jouaient les interclubs c'est bafoué, boycotté même les championnats nationaux en se disant nous sommes en train d'aller préparer. Donc aujourd'hui, la fédération a tapé le poing sur la table pour donner la ligne de conduite, pour donner les calendriers réels qui seront respectés du début jusqu'à la fin du mois de mai, pour que nous ne puissions plus tomber dans les erreurs du passé. Donc je dis, c'est la toute première fois que nous voyons ça et nous osons croire que la fédération ne va pas se plier aux caprices de certains clubs, ou moins encore aux caprices de la Ligue nationale, pour que son calendrier puisse être respecté. Je vais revenir un tout petit peu là-dessus. Pour quelles raisons nous n'avons pas des sponsors? Pour quelles raisons nous n'avons pas des diffuseurs? Pour quelles raisons nos matchs ne sont pas retransmis dans de grandes chaînes internationales? C'est parce que les calendriers n'est pas respecté. C'est parce que les heures de match ne sont pas connues. C'est parce que tout le monde veut faire ce qu'il veut. Voilà aujourd'hui, nous sommes en train de chercher à aller de l'avant avec ces comités qui viennent de mettre tout. Et je sais pour quelles raisons peut-être qu'ils ont mis ça en place. C'est pour que nous puissions avoir des annonceurs, c'est pour que nous puissions avoir de
l'accompagnement financier.
C'est là. C'est là où il y a la manne financière qui arrive, que les clubs puissent en bénéficier. C'est une bonne chose.
Merci.
Et je crois que tous les Congolais pourront comprendre ça. J'ajouterai, je vais terminer par là, l'argent est venu. Et je vous ai dit tout à l'heure que l'argent qui vient de la FIFA, cet argent est contrôlé des centimes en francs près. Donc c'est que les gens peuvent se dire que ça serait bien tracé et tout sera transparent.